Il est 14h30 ici à Paris, une heure de moins à Libreville, midi et demi en temps universel. Et c'est l'heure d'Afrique Midi avec vous, Paul Longsin-Spinelli.
Avec à la une, retour sur l'élection à la tête du Gabon de Brice Clotaire Oligui Nguema avec ce score écrasant, 90,35% des voix selon les chiffres provisoires globaux communiqués hier par le ministère de l'Intérieur. Alain-Claude Billy Binzé arrive deuxième avec 3% des suffrages exprimés. On est à Libreville dans une minute. Énième épisode de friction entre la France et l'Algérie alors que la tension commençait à peine à redescendre. Alger a annoncé aujourd'hui l'expulsion de 12 fonctionnaires français. Ils ont 48 heures pour quitter le territoire algérien. Décision annoncée après l'arrestation en France vendredi de 3 ressortissants algériens soupçonnés eux d'être impliqués dans l'enlèvement d'un influenceur opposant au régime algérien l'an dernier. Le président togolais Fornia Singbe a désigné médiateur de l'Union africaine pour le conflit dans l'est de la RDC. Et puis le Soudan également au menu après la prise du camp de réfugiés de Zamzam annoncé par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Chef de la transition depuis 20 mois, il décroche maintenant un mandat de 7 ans à la tête du Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président avec 90,35% des voix. D'après les chiffres provisoires globaux communiqués par le ministère de l'Intérieur hier, son élection doit encore être validée par la Cour constitutionnelle. François Mazet, vous êtes en ligne de Libreville. Ce score, il ne laisse donc que des miettes à ses adversaires. Alain-Claude Billy Binzé est en effet arrivé deuxième, crédité de tout juste 3%. Il s'est d'ailleurs exprimé ce matin devant la presse. Il a reconnu la victoire de son concurrent sans pour autant le féliciter.
Oui, il a souhaité bonne chance au vainqueur du scrutin, mais a bien précisé qu'il ne s'agissait pas de félicitations, car selon lui, cette élection a été opaque et le processus discrédité par des scores à la tête du client et par un système de fraude qui s'est reconstitué, je cite Alain-Claude Billy Binzé. L'ex-premier ministre estime avoir remporté une victoire politique, comprendre qu'il juge que grâce à sa campagne, il s'est installé comme le premier opposant à Brice Clotaire Oligui Nguema et à ce qu'il appelle le système PDG-CTRI. Il estime également avoir tourné la page de ses années comme pilier du régime d'Ali Bongo et de cette image qui jusque-là le rendait radioactif pour beaucoup d'électeurs gabonais.
Et son objectif désormais, porter l'alternative dans l'opinion avec Ensemble pour le Gabon.
Je ne perdrai pas mon temps à saisir la Cour constitutionnelle tenue par un frère du président, a-t-il précisé. Il n'a pas voulu se prononcer sur les futures législatives. Dans le même temps, un petit peu plus tôt dans la matinée, Brice Clotaire Oligui Nguema, lui, s'est exprimé devant ses collaborateurs après la montée des couleurs à la présidence. Il voit dans son large score une preuve de la détresse qui touchait le pays. Les Gabonais attendent beaucoup de nous. On ne s'arrête pas sur une victoire. La victoire, c'est le travail qui continue, a dit le président. Président élu annonçant plus de 1000 textes réglementaires à prendre dans la première année pour mettre en œuvre la nouvelle 5e République.
Merci François Mazet en direct de Libreville. Ce score écrasant donc établi avec un taux de participation de 70,4%, il ne convainc pas pour autant les voix qui critiquaient la transition. Jean-Rémy Yama avait vu son dossier de candidature recalé pour ce scrutin. Selon le syndicaliste, le général Oligui Nguema était de toute façon sûr de l'emporter et regrette donc d'avoir vu son score gonfler dans sa région d'origine comme c'était déjà le cas dans l'ancien régime.
Les vieilles habitudes sont revenues. Chaque responsable a voulu montrer au président élu que le meilleur score, c'est chez moi. Et bien donc, les vieux réflexes sont toujours revenus, le bourrage des urnes, l'achat de conscience. En tout cas, j'ai été témoin et c'est vraiment triste. Même si la victoire du président Oligui était attendu. Elle ne souffre d'aucune contestation en tant que telle. Il n'avait vraiment pas besoin de ça. Il était sûr et certain d'être élu. Mais en même temps, je ne pense pas que ce soit lui qui ait donné cet ordre. C'est le retour, en fait, ce sont les méthodes de l'ancien système. Et on n'est pas surpris puisque tous ceux qui étaient à la tête de cette campagne, que ce soit dans des coordinations provinciales, départementales ou même nationales, n'étaient que des pédégistes. Et nous arrivons malheureusement à ce résultat triste. Je le dis parce que la transition avait bien commencé. Elle est rentrée par la grande porte et elle sort par la fenêtre.
Jean-Rémy Yama. Et pour analyser le résultat de cette présidentielle au Gabon, l'enseignant-chercheur Bergès Mietté sera notre invité d'ici une dizaine de minutes. À peine le rapprochement avait-il commencé qu'Alger et Paris replongent dans la crise. 8 jours après sa visite à Alger, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, a annoncé ce lundi que 12 fonctionnaires avaient reçu l'ordre de quitter le territoire algérien sous 48 heures. Expulsion que Paris dit regrettée. Cette décision, elle fait suite à l'arrestation de 3 ressortissants algériens. Ils ont été mis en examen vendredi à Paris. Et dès samedi, la diplomatie algérienne avait dénoncé une cabale judiciaire inadmissible. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
Que sait-on des derniers échanges entre Paris et Alger ?
Dans un message écrit à la presse, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué ce lundi que les autorités algériennes ont demandé à 12 agents français de quitter le territoire algérien en réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens soupçonnés de faits graves sur le territoire national français, je cite. Le ministre français a estimé que ces mesures d'expulsion sont injustifiées au fond et sans rapport avec les faits dont sont soupçonnés les trois ressortissants algériens arrêtés vendredi. Jean-Noël Barrot demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion. Si la décision de renvoyer nos agents était maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement, prévient le ministre.
Vous l'avez dit, Lisa, ces déclarations, elles font suite à l'arrestation vendredi dernier, donc de 3 ressortissants algériens en France, dont l'un est employé d'un des consulats d'Algérie. En France, qu'est-ce qu'il aurait reproché ?
Les 3 hommes sont soupçonnés d'avoir enlevé puis séquestré il y a presque 1 an un influenceur très critique contre le régime algérien, Amir Bourros, alias Amir DZ, qui est réfugié en France depuis 2016. Les 3 ressortissants algériens ont été mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste. Également poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels, ils ont été placés en détention provisoire en France. Dès samedi, le ministère algérien des Affaires étrangères avait dénoncé l'argumentaire vermoulu et farfelu du ministère de l'Intérieur français et fustigé une cabale judiciaire inadmissible.
Lisa Fabian, merci à vous. Lui aura la lourde tâche d'essayer de trouver des accords pour résoudre le conflit dans l'est de la RDC. Faure Gnassingbé a été désigné médiateur de l'Union africaine. Le dirigeant togolais succède donc à son homologue angolais, João Lourenço, qui occupait cette fonction jusqu'au mois dernier, Florence Maurice.
Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, remercie l'Union africaine pour la confiance exprimée à l'égard du président togolais. Il assure que ce dernier contribuera activement, je cite, à la recherche d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. La tâche s'annonce difficile. Son prédécesseur, João Lourenço, a essuyé plusieurs revers diplomatiques. Depuis fin 2021, une demi-douzaine de trêves et cessez-le-feu ont été décrétés dans l'est de la RDC. Tous rapidement brisés. La première étape pour le président togolais sera déjà de fusionner et d'harmoniser les 2 processus de médiation existants, ceux de Luanda et de Nairobi, pour éviter une multiplication des canaux de discussion. D'autant que depuis plusieurs semaines, le Qatar conduit lui aussi, en parallèle et en toute discrétion, un processus de facilitation à Doha. C'est là que fin mars, à la surprise générale et après plusieurs tentatives avortées de la part de l'Union africaine, les présidents rwandais et congolais ont finalement accepté de se rencontrer.
Florence Maurice, est noté que les autorités togolaises n'ont pas répondu aux sollicitations de RFI pour réagir à cette désignation. Il s'agit du plus grand camp de réfugiés de tout le Soudan. Le camp de Zamzam est tombé hier aux mains des forces de soutien rapide. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les paramilitaires eux-mêmes. Zamzam abritait 500 000 personnes selon l'ONU après la guerre de 2003, mais le chiffre avait même plus que doublé avec le conflit en cours depuis près de 2 ans. C'est l'un des 3 camps qui entourent El Fasher, cette grande ville du Darfour du Nord encerclée depuis plus d'un an par les FSR. Ce matin, aucun bilan humain n'a pu être établi à Zamzam, mais les vidéos postées sur les réseaux sociaux par les paramilitaires montrent l'étendue des exactions, Ouda Ibrahim.
Après les bombardements et les frappes des drones des FSR contre le camp de Zamzam ainsi que l'offensive terrestre qui s'en est suivie vendredi, il est toujours impossible de faire le bilan des victimes civiles. Les ONG ONG internationales ont simplement pu confirmer le décès de 9 personnes parmi le personnel médical qui travaillait à Zamzam, dont un médecin, des infirmiers et des chauffeurs. L'UNICEF indique qu'au moins 23 enfants ont été tués à Zamzam et Abu Shouk, à Tawila qui se trouve à proximité d'El Fasher. Les ONG constatent un déplacement massif des milliers de personnes. Des milliers d'autres ont fui vers El Fasher plus proche. Les images satellites du 13 avril montrent des zones au centre et au sud du camp complètement incendiées. Des sources locales parlent de dizaines de personnes assassinées du fait de leur appartenance ethnique et d'un millier de disparus. Des vidéos tournées à Zamzam par les FSR et postées sur les réseaux sociaux documentent les exactions. L'une de ces vidéos montre notamment de jeunes que l'on force à répéter des slogans des FSR sous la menace. Abderrahim Daglo, frère du général Hamiti et vice-président des FSR, apparaît aussi sur une vidéo au milieu de femmes qui fuient, essayant de les rassurer, mais sans succès.
Ouda Ibrahim, et d'après plusieurs ONG locales et internationales, les occupants du camp de Zamzam ont donc fui massivement, vous l'avez dit. Depuis vendredi, quelques 20 000 personnes arrivent tous les jours à Tawila. Renaud Doucy est sur place pour l'organisation Solidarité Internationale. Écoutez.
C'est un flux continu qu'on peut observer parce qu'on travaille aussi sur la route et au point d'arrivée de ces familles-là, ils arrivent à pied, ils arrivent avec leur âne, ils arrivent en voiture, ils arrivent épuisés, exténués, ils ont tous soif parce qu'il n'y a pas d'eau sur la route et on parle de plusieurs dizaines de kilomètres entre Tawila, là où nous sommes, et Zamzam. On a eu la confirmation ce matin très tôt que Zamzam, ça y est, était vide. C'est-à-dire que tout le monde est parti, que ce soit les habitants historiques, j'allais dire les déplacés qui datent d'il y a 20 ans, ou les déplacés fraîchement arrivés, parce que ça n'arrête jamais. Plus que la moitié, clairement, vers El Fasher, parce que c'est beaucoup plus près. Mais ils ont été visés par les groupes armés qui ont envahi Zamzam et qui entourent El Fasher et Zamzam. Et le reste, ils viennent ici. Alors, ils viennent ici à Tawila. Peut-être arriveront-ils aussi aux alentours, là où il y a déjà des déplacés, et là où on vient à leur secours en distribuant de l'eau, des abris, etc. Mais là, clairement, on va être... Tous autant qu'on est, les ONG, pourtant qui se coordonnent très bien, on va être dépassés.
Renaud Doucy, une femme de nationalité suisse et nigérienne enlevée hier soir à Agadez au Niger. Plusieurs sources sécuritaires et civiles locales le confirment à RFI. Claudia Abt résidait dans cette ville du centre du pays depuis plusieurs années. Cet enlèvement, il n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais il survient peu après ceux d'une Autrichienne et de 4 Marocains, tous attribués à l'État islamique au Sahel, un groupe notoirement actif dans cette zone, David Baché.
Oui, alors les hommes armés ont débarqué après la nuit tombée hier au domicile de Claudia Abt dans le quartier d'Agmanet 2 à Agadez. Les ravisseurs et leurs otages auraient ensuite filé plein ouest en direction de la ville d'Ingal, puis plus loin de la frontière malienne. Selon les sources locales jointes par RFI et selon d'anciens articles parus dans la presse suisse et nigérienne, Claudia Abt, 67 ans, s'était installée à Agadez il y a plusieurs années après s'être mariée à un Nigérien. Linguiste et ethnologue de formation, elle menait également des activités dans les secteurs du tourisme et de l'artisanat. Elle avait notamment créé une association pour promouvoir les savoir-faire traditionnels. Son enlèvement n'a pas été revendiqué, mais les soupçons de toutes les sources jointes par RFI se portent sur l'État islamique au Sahel. Le groupe djihadiste est notoirement présent dans la région et c'est déjà à l'EI que sont attribués les enlèvements récents au Niger d'une Autrichienne et de 4 Marocains. Eva Gretzmacher avait été enlevée dans cette même ville d'Agadez le 11 janvier dernier. Les 4 chauffeurs de camions marocains avaient quant à eux disparu près de la ville de Terra dans la zone des 3 frontières Niger-Mali-Burkina le 18 janvier.
Merci David Baché. Et le département des affaires étrangères à Berne confirme bien qu'une citoyenne suisse a effectivement été enlevée au Niger. En football, c'est une très mauvaise espace que vit actuellement André Onana. Le gardien camerounais a en effet beaucoup souffert dans les cages de Manchester United jeudi dernier en quart de finale de Ligue Europa contre Lyon, match nul de partout. Un résultat frustrant dans lequel le portier est le principal responsable d'après certains supporters. Et dernière étape de cette dégringolade, son absence lors du déplacement de son club à Newcastle dimanche, Baptiste Leduc.
Si André Onana n'avait jamais expérimenté l'effet papillon, c'est maintenant chose faite. Sa provocation avant le quart de finale de Ligue Europa contre l'Olympique Lyonnais aurait pu rester sans conséquence, mais ses boulettes sur les buts lyonnais lui ont attiré des critiques. Après la rencontre, l'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, ne semblait pourtant pas vouloir lâcher André Onana.
Cela peut arriver à n'importe quel joueur. Rien de ce que je dirais ne pourra l'aider. André garde toute ma confiance.
Sauf que le coach portugais a remis une pièce dans la machine ce week-end. Alors qu'Onana n'avait pas manqué une seule minute de championnat depuis son arrivée à Manchester en 2023, voilà qu'il s'est retrouvé assigné à résidence un week-end de match. Alors c'était pour se reposer officiellement, donc ce n'est pas encore une mise au placard, mais de nombreux supporters se demandent si le portier camerounais a les qualités requises pour rester numéro 1. Certains ont même repris la thèse de Nemanja Matic, le milieu lyonnais qui avait estimé qu'Onana était le pire gardien de l'histoire récente de Manchester United. En attendant de savoir s'il va retrouver sa place rapidement, André Onana peut au moins compter sur le soutien du syndicat des joueurs camerounais qui dénonce dans un communiqué le harcèlement subi selon eux par le portier des Lions Indomptables.
Baptiste Leduc, Manchester United qui a coulé hier à Newcastle, défaite 4 buts à 1. Les automobilistes et piétons vont devoir s'habituer au nouveau nom d'un aire central de la circulation d'Abidjan, le désormais ex-boulevard Valéry Giscard d'Estaing. S'appelle maintenant boulevard Félix Houphouët-Boigny. De nouvelles plaques sont en train d'être installées, c'est aussi le cas pour d'autres voies de la capitale économique. Il s'agit en fait de la dernière étape du projet d'adressage du district d'Abidjan démarré il y a 8 ans. Benoît Almeras a suivi les travaux sur le boulevard Houphouët-Boigny.
Casque blanc sur la tête et gilet jaune sur le dos, une dizaine d'ouvriers fixent les nouveaux panneaux sur les trottoirs.
Le panneau indique que c'est le boulevard Félix Houphouët-Boigny.
Près de 400 plaques orange vif vont être posées sur les 8 km du boulevard. Objectif, afficher son nouveau nom adopté depuis 2023. Les passants saluent ce changement visible.
Ce boulevard est un boulevard d'histoire. Il traverse pratiquement tout Abidjan. C'est une façon de rendre hommage au tout premier président. Et aussi, ça africanise un peu aussi quelque part les noms.
Ça fait plus ivoirien parce que là, on aura le nom de nos dirigeants ici.
Au total, un peu plus de 14 000 voies, rebaptisées ou non, vont avoir des panneaux flambant neufs. Orange pour les boulevards, vert pour les avenues, bleu pour les rues. Reste que les anciens noms sont encore très utilisés. D'ailleurs, sur les GPS comme Google Maps, le boulevard Félix Houphouët-Boigny s'appelle toujours VGE. Adolphe Nguessan gère le projet d'adressage du district d'Abidjan.
Dans cette plateforme-là aujourd'hui, c'est deux noms qui cohabitent. Avec la pose des plaques, je pense que l'appropriation devrait s'améliorer jusqu'à une certaine période où les anciens noms vont totalement disparaître.
Et des projets d'adressage sont également en cours à Yamoussoukro, Daloa et Korogo. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
RFI, il est 14h47 à Paris. Et les principaux titres de l'actualité internationale avec vous, Clotilde Dumay.
Le Hamas est prêt à libérer tous les otages israéliens en échange de garanties sur une fin de la guerre dans la bande de Gaza. C'est en tout cas ce qu'affirme un haut responsable du mouvement islamiste palestinien auprès de l'AFP. L'Union européenne, de son côté, annonce une aide financière de plus d'1,5 milliard d'euros étalée jusqu'en 2027 pour renforcer le soutien au peuple palestinien. La Russie dit avoir visé une réunion de l'armée ukrainienne à Soumy hier. Moscou confirme avoir lancé 2 missiles balistiques en direction de cette ville du nord-est de l'Ukraine. La frappe a fait au moins 34 morts. 4 autres civils ont par ailleurs été tués dans d'autres frappes aujourd'hui dans la région de Kharkiv. Et puis ce sera le 6 mai prochain en Allemagne. Le Bundestag a fixé la date pour élire Friedrich Merz au poste de chancelier. Friedrich Merz qui doit succéder à Olaf Scholz pour diriger une coalition gouvernementale entre conservateurs et sociaux-démocrates. Les Gabonais ont depuis hier un nouveau président, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été élu avec 90,35% des voix, selon les chiffres globaux provisoires annoncés par le ministère de l'Intérieur. Le général prend donc les rênes du pays pour les 7 prochaines années. Il a déjà passé 20 mois au pouvoir en tant que président de transition, après avoir mené le coup d'État d'août 2023 pour renverser Ali Bongo. Pour revenir sur le résultat de ce scrutin, votre invité, Paul Lonsin-Spinelli, c'est Bergès Mietté, enseignant-chercheur à l'Université internationale de Libreville, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le Monde à Sciences Po Bordeaux.
Bonjour Bergès Mietté.
Bonjour.
Il n'y a pas vraiment de surprise dans ce résultat de la présidentielle au Gabon, mais avec 90,35% des voix obtenues par Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce qu'on s'attendait à un chiffre d'une telle ampleur ?
Alors, je dois dire que j'ai observé les dynamiques politiques et sociales qui structurent le Gabon depuis le coup d'État le 30 août 2023. Je ne suis pas, à titre personnel, surpris par les résultats de ce scrutin du 12 avril.
Mais ce chiffre de plus de 90%, qu'est-ce que ça traduit selon vous réellement ?
Je pense que ce chiffre fleuve traduit, pour ma part, l'adhésion des Gabonais au projet, je dirais plutôt au rêve porté par Brice Oligui Nguema. Et cela s'explique aussi au regard des stratégies de campagne qui ont été mises en œuvre par le candidat président. Je pense que c'est tout un ensemble de mécanismes qui permettent de comprendre et d'expliquer ce résultat-là.
Ce résultat, il transparaît aussi au travers peut-être de la participation, 70,4%. Est-ce que c'est cette donnée aussi qui montre, selon vous, un engouement des électeurs pour le scrutin et pour la candidature de Brice Clotaire-Oligui Nguema ?
Oui, je pense qu'à bien des égards, c'est qu'on a vécu le 12, c'est un scrutin présidentiel inédit. Aussi bien en matière d'organisation, d'annonce des résultats, mais aussi de participation. Et vous avez vu que depuis le 12, il n'y a pas eu de contestation comme par le passé.
Selon vous, quel facteur explique réellement cette mobilisation et ce déroulement, comme vous l'expliquez ?
Je pense que la plupart des Gabonais sont animés d'une réelle volonté de tourner la page Bongo. Et l'avantage avec Brice Oligui Nguema, c'est qu'il est parvenu à mettre en harmonie tout un ensemble de facteurs, parmi lesquels le coup d'État. Et pour avoir été l'auteur de ce fait historique-là, je pense que beaucoup de Gabonais ont voté pour lui en raison de cet élément-là, donc de ce fait historique. Et en plus de cela, il y a effectivement d'autres facteurs. C'est vrai que Brice Oligui Nguema n'est pas une personne neuve, hein, puisqu'il appartient aussi au système, mais le bras armé du système. À la différence, par exemple, d'Alain-Claude Bilibinze, qui est un cadre du Parti démocratique gabonais, pour beaucoup, Brice Oligui Nguema apparaît comme quelqu'un de nouveau.
C'est ce que j'allais vous poser comme question. Alain-Claude Bilibinze, donc pilier du règne des Bongos, vous l'avez mentionné, il a terminé en deuxième position avec tout juste 3% des suffrages. Est-ce que donc les partisans de l'ancien régime ont préféré voter pour Oligui plutôt que pour lui? Est-ce un synonyme d'échec pour Alain-Claude Bilibinze?
Non, je pense que le problème, ce n'est pas tant Alain-Claude Bilibinze en tant qu'individu. Je pense que si on était dans une compétition opposant Alain-Claude Bilibinze face à un candidat investi par le Parti démocratique gabonais, les Gabonais étaient capables de voter Alain-Claude Bilibinze, s'il avait démissionné du PDG et qu'il avait rejoint l'opposition, les Gabonais étaient capables de voter pour Alain-Claude Bilibinze pour faire barrière au PDG. Or, dans le cas de ce scrutin du 12 avril, en fait, Alain-Claude Bilibinze n'avait pas en face de lui un candidat du Parti démocratique gabonais, même si celui-ci était soutenu officiellement par le PDG. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ce que moi je veux relever, c'est que pendant une décennie, Alain-Claude Bilibinze a été le visage très connu du régime d'Ali Bongo. Et c'est pour cette raison que tout au long de la campagne, à chaque sortie, il était comme condamné à se justifier sur des actions posées, non pas par lui en tant qu'individu, mais plutôt par le régime d'Ali Bongo. Pour les Gabonais, il apparaissait davantage comme le principal bouc émissaire, Ali Bongo n'étant plus là.
Alors, est-ce que ce score écrasant de Brice Clotaire-Oligui Nguema, il s'explique aussi par l'absence de réelle compétition décidée par la transition elle-même, dans la mesure où beaucoup de poids lourds avaient été déclarés inéligibles?
Oui, tout à fait. Le scrutin a été ouvert, mais pas très compétitif. Depuis le début de la transition, il y a tout un ensemble de dispositions constitutionnelles qui ont rendu inéligibles plusieurs candidats, parmi lesquels Daniel Mengara, Albert Ondoosa, Pierre Claver Manganga Moussavou et Jean-Rémi Yama. Donc plusieurs aspirants à la magistrature suprême ont été frappés d'inéligibilité en raison des nouvelles dispositions qui ont été adoptées pendant la période transitoire. Et cette stratégie-là a été mise en place dès le début de la transition pour neutraliser les principaux rivaux de Brice Oligui Nguema, si bien que on a eu le 12 avril un scrutin présidentiel, mais Brice Oligui Nguema, il n'avait pas en face de lui de vrai challenger, ce qui explique entre autres les résultats obtenus.
Il avait Brice Clotaire Oligui Nguema pendant la transition et la campagne construit une quasi-unanimité, il avait rassemblé beaucoup de soutien politique, mais maintenant, si l'on veut un peu se projeter, est-ce qu'il va pouvoir satisfaire tout le monde ?
Je pense que l'enjeu de ce scrutin-là se situe à ce niveau. On a bien vu qu'il y a eu une adhésion autour de la personne, mais aussi la candidature de Oligui Nguema. Ce qui explique l'adhésion massive des populations à son projet. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que, à l'issue de ce scrutin, Brice Oligui Nguema va gérer tous ses soutiens, tout ce qu'il a emporté dans le cadre de ce scrutin-là. Je pense que l'enjeu se situe à ce niveau-là. Et à titre de comparaison, on a vu qu'en 2009, à l'issue de la présidentielle controversée de 2009, Ali Bongo, une fois est déclaré vainqueur, il a écarté plusieurs cadres du Parti démocratique gabonais, ce qui a suscité beaucoup de réactions dans le pays. Et dans le cas de ce scrutin-là, c'est une période d'incertitude, puisque tout dépendra de la gestion que Brice Oligui Nguema fera de tous ceux qui l'ont soutenu dans le cadre de ce scrutin. Ça reste l'inconnu dans ce processus-là qui va s'achever avec les élections législatives et locales à venir.
Merci Bergès Mietté. Entretien à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Nous évoquions dans le journal la fuite en catastrophe des réfugiés du camp de Zamzam au Soudan. Au total, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, près de 13 millions de personnes ont été déplacées en 2 ans de guerre, dont une partie au Tchad. 600 000 Soudanais se sont en effet greffés à un contingent presque équivalent de compatriotes déjà présents sur le sol tchadien depuis le précédent conflit au Darfour en 2003-2004. Et chaque jour, ce sont toujours des centaines de réfugiés soudanais qui continuent d'affluer, notamment au poste frontière d'Adré, où s'est rendu Igor Strauss. Reportage.
Vous voyez les charrettes là ? Tout est plein, 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 plein.
Tout ça, c'est des Soudanais qui viennent, quoi ?
Des Soudanais qui viennent.
Ce matin, comme tous les matins depuis des mois, des centaines de réfugiés exténués, traumatisés, font la queue pour être enregistrés au CENAR, la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés. Mahamat travaille pour cet organisme tchadien.
Ce matin, moi, personnellement, j'ai vu des femmes avec des enfants mineurs. Donc, ils disent que là-bas, il n'y a pas une sécurité totale, il n'y a pas la paix.
Est-ce que vous avez des témoignages qui vous ont marqué particulièrement, vous ?
Tu trouves quelqu'un qui est devant toi, elle est en train de pleurer, agressée par des hommes ou bien des viols. Tu vois, c'est inhumain, quoi.
Les femmes et les enfants représentent près de 90% des réfugiés soudanais. C'est pourtant un jeune homme que me présente Mahamat.
Voilà, ce matin, on a reçu un monsieur Mustapha Adam Idriss. Il a reçu éclat au niveau du Soudan pendant un bombardement de Janjaweed.
Ça s'est passé à Omdurman. L'attaque a eu lieu le soir, c'est-à-dire après la prière de Asr. Il y a eu des cas de mort, il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui sont fracturés, il y a eu des gens qui ont perdu leurs jambes.
Vous savez pourquoi vous avez été attaqué ?
Ils disent pour rien, ils sont pour le piller.
Des hommes blessés, des femmes violées, des destins brisés. Difficile dans ce contexte d'organiser la cohabitation. Ali Djimé, manager d'un camp d'Adré.
Le conflit au Soudan, certes, c'est un conflit politique, mais ça s'est transformé en conflit ethnique. Un conflit entre les Arabes et les Masalites. Et pour éviter qu'il y ait encore un conflit ici dans le camp, on les sépare.
Les Arabes sont donc envoyés dans des camps près d'Abéché, les autres à Farshana, 50 km à l'ouest d'Adré. On retrouve Mahamat en compagnie de 4 femmes soudanaises.
Ils disent qu'ils sont soudanais, ils sont arrivés au Tchad, encore ils retournent là-bas, parce que leur famille se trouve derrière là-bas, ils ne peuvent pas rester.
Bravant la peur et le danger, certains retournent au Soudan pour des raisons familiales, les autres restent au Tchad dans des conditions très précaires. Le retrait de l'aide américaine a eu des conséquences dramatiques, des projets d'irrigation ont été stoppés net, tout comme le soutien psychologique aux réfugiés, Ali Djimé.
On fait un appel à tous les bailleurs pour pouvoir prendre en charge ces réfugiés qui sont vraiment dans le détresse.
Un message tel un SOS pour les victimes d'un conflit oublié. Igor Strauss, de retour d'Adré, RFI.
Un premier volet de notre série en 3 reportages sur le Soudan à l'approche des 2 ans de la guerre civile. C'est la fin d'Afrique Midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Édition réalisée par Benoît Raymond. À la préparation du journal, Pierre Vallée. Laurent Chaffard était à la rédaction en chef. Dans quelques secondes, c'est la suite des RFI Midi avec Clotilde Dumay.
Et merci beaucoup, c'était Paul Loncin-Spinelli, on vous retrouve demain.
Société Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Comment lutter contre le harcèlement et la haine, une émotion destructrice.
Mercredi.
La leptospirose, une maladie transmise par les rats.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vivez sur RFI les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Après les matchs allés, le PSG et Arsenal ont pris un bel ascendant. Vainqueur d'Aston Villa, le club parisien ira à Birmingham pour valider sa place dans le dernier carré. Les Gunners, impressionnants à Londres, devront résister aux tenants du titre emmenés par Kylian Mbappé. Aston Villa PSG ce mardi et Real Madrid Arsenal ce mercredi. À suivre en direct et en intégralité sur RFI. Coup d'envoi à 19h temps universel.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.